Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi, Jean-Claude Mabéa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau point de l'actualité de ce mercredi présidentiel 2025. Quelle contribution des femmes pour un processus électoral inclusif, cohésif et sécurisé? C'est le thème de réflexion d'une table ronde qui s'est tenue à l'Assemblée nationale hier mardi à l'initiative de l'ONG Femmes Ivoiriennes en politique. On en saura un peu plus en début de ce journal. État civil, le taux d'enregistrement des naissances dans les délais est donc en nette régression de 66,8% en 2021. Il a chuté à 55,4% en 2024. C'est ce qui ressort de l'annuaire statistique d'État civil de l'année 2024 qui a été récemment rendu public par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Actualité au Soudan, le PAM menace de fermer des camps de réfugiés faute d'argent. Et puis, le professeur Bamba Abdoulaye sera en fin d'édition l'invité de la rédaction. L'historien reviendra sur l'accord de paix signé récemment entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Sur le sujet, il sera interrogé par Mardoché Kouassi. Voilà pour l'essentiel. Avant le développement de tous ces titres, il faut noter que l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en Chine, Adama Dosso, est désormais ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur depuis hier mardi. Écoutons à cet effet la secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, Maseré Koné, annonçant sa nomination.
Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 1er juillet 2025 à la signature d'un décret de nomination au titre du gouvernement. Ainsi, sur proposition de M. Robert Beugré Mambé, Premier ministre, chef du gouvernement, M. Adama Dosso, précédemment ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire après la République populaire de Chine, est nommé ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Fait à Abidjan le mardi 1er juillet 2025.
Nous écoutions à l'instant la secrétaire générale de la présidence de la République, Maseré Koné. On poursuit avec les préparatifs d'une présidentielle paisible en octobre 2025. Les femmes ivoiriennes veulent donc jouer un rôle actif dans la préservation de la paix en cette période électorale. À l'initiative de l'ONG Femmes Ivoiriennes en politique, plusieurs d'entre elles se sont réunies hier mardi à l'Assemblée nationale pour une table ronde. Thème de réflexion, quelle contribution des femmes pour un processus électoral inclusif, cohésif et sécurisé. Rebecca Yao, présidente de l'ONG Femmes Ivoiriennes en politique, explique ici les motivations de cette initiative.
En réalité, si je rêve autant, je pense que c'est parce que je suis inquiète. Comment ne pas l'être au regard de la violence qui s'annonce dans les mots, dans les intentions, dans les actes? On ne s'entend pas, c'est un fait, mais alors comment fait-on pour s'entendre? Le père fondateur de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, a dit: dans la recherche de la paix juste, durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir avec obstination au dialogue. Il est temps de tenir les promesses de la démocratie. Ce n'est en effet plus le moment de laisser tiédir notre ardeur, de laisser aux autres le soin de trouver une solution à la crise qui s'annonce et serait fatale pour la nation. Le diagnostic de la crise qui s'annonce est déjà bon. Il a été déjà maintes fois discuté. Toutes les parties ont raison. Et nous ne venons pas ici nous y pencher. À 3 mois des élections, nous les femmes, dans l'Union, devons nous employer à la formulation de propositions concrètes qui nous feront avancer vers la paix, la cohésion nationale et la réussite du processus électoral. Prenons courage, ne minimisons pas la situation. Nous pouvons encore contrôler notre devenir, car ne cherchons pas à fuir nos responsabilités et notre pays. Rassemblons-nous, battons-nous, trouvons une solution. Le consensus et le dialogue sont possibles.
Rebecca Yao, présidente de l'ONG Femmes Ivoiriennes en Politique, a noté que les recommandations issues de cette rencontre seront transmises aux autorités compétentes et à l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral. L'actualité, c'est aussi la suspension du Congrès national pour le développement de la Côte d'Ivoire, CNDCI en abrégé, et l'Alliance pour la démocratie et la paix, ADP, du groupe des 8, qui est donc un groupement de 8 partis politiques ivoirien, une décision prise selon cette coalition de partis politiques pour préserver les objectifs ayant milité à sa création. Suivons donc les explications d'Anissé Nyanzi, le président de l'UDCI et coordonnateur du G8.
Nous sommes dans une période préélectorale et il y a des prises de position qui pourraient gêner les uns les autres. Alors que le G8 s'est fixé pour objectif de défendre les institutions de la République, de faire la promotion des acquis du dialogue politique. Et en fonction de la situation que vivent aujourd'hui nos deux membres, nous nous sommes dit qu'il était important qu'ils prennent du recul. Le premier, Conan Blé Oswald, président du CNDCI, il a été désigné directeur de campagne d'un candidat déjà déclaré à l'élection présidentielle. C'est Mme Lagouanaguette, du gouvernement GPP. Et nous sommes certains que sa fonction de directeur de campagne va l'amener à prendre des positions qui pourraient certainement gêner le G8. Le second, c'est le président Mamadou Koulibaly, la plateforme ADP, plateforme qui mène actuellement une action auprès de la Cour de la CDAO par rapport au parrainage citoyen et décide de mener certaines actions annexes par rapport à cet objectif. Dès l'instant où ADP s'attaque à une institution de la République telle que la CEI, ça commence à poser un petit souci, mais c'est juste une mesure conservatoire, hein. C'est pas une radiation, c'est juste une suspension. Si les uns et les autres, leur situation pour laquelle ils ont été suspendus venait à changer, les choses reprendront leur cours normal. Qu'ils ne prennent pas cette mesure conservatoire comme une sanction, nous rendons compte qu'ils veulent mener des activités et pour qu'ils soient vraiment à l'aise pour le faire, nous leur demandons de prendre congé du G8, c'est tout.
C'était Anissé Nyanzi, président de l'Union démocratique et citoyenne UDCI, par ailleurs coordonnateur du G8, groupement de 8 partis politiques ivoiriens. Nous le disions en titre que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité vient de rendre public l'annuaire statistique d'état civil de l'année 2024. Constat majeur et marquant, le taux d'enregistrement des naissances dans les délais est en nette régression. De 66,8% en 2021, il a chuté à 55,4% en 2024. Une des raisons majeures de ce constat est la forte régression enregistrée au niveau d'Abidjan. Explique ici Yavo Serge. Il est le directeur des études de la statistique, de la planification et du suivi évaluation de ce ministère. Nous l'écoutons donc.
Cette régression pourrait s'expliquer par le poids démographique que présente Abidjan. Parce que quand on regarde toutes les données obtenues dans les régions, en fonction des différentes campagnes de sensibilisation réalisées par le ministère de l'Intérieur, tous les chiffres ont augmenté, les taux ont grimpé, sauf Abidjan qui, à lui seul, présentait 99% de déclarations, qui est passé en 2024 à 72% de déclarations. C'est la régression du taux d'Abidjan qui a provoqué cette chute. Cela s'explique par le fait que nous nous sommes aperçus que les enregistrements des naissances hors délai ont vraiment augmenté. Cela s'explique aussi par le fait qu'il y a eu, disons, la mise en œuvre de la loi 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale. Et nous sommes en période électorale et la transcription d'identité des personnes qui ont été rattrapées dans le cadre du rétablissement d'identité, a pris le pas sur l'enregistrement des naissances dans le délai.
À l'instant, Yavo Serge, le directeur des études, de la statistique, de la planification et du suivi et évaluation au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Un mot d'économie dans ce journal, promotion des PME. Le mouvement des petites et moyennes entreprises MPME de Côte d'Ivoire a célébré lundi ses 45 années d'existence lors d'un forum à Abidjan. Présidant la cérémonie, le ministre du Commerce et de l'Intérieur a salué les réformes engagées ces dernières années par le gouvernement ivoirien pour favoriser un écosystème entrepreneurial compétitif. Selon lui, l'enjeu est désormais clair, faire des PME les champions nationaux de demain, capable de s'intégrer pleinement aux chaînes de valeur locales, régionales et internationales. Écoutons à cet effet le ministre Souleymane Diarra Souba.
Les CPME constituent en réalité la colonne vertébrale de notre économie. Et donc, vers la vision du président de la République de faire de notre pays un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, cela se fait pour les PME, pour que nous puissions avoir plus de PME qui soient demain des entreprises de taille intermédiaire et après-demain des champions nationaux et portés également par nos compatriotes. Et d'où toutes ces réformes pour améliorer l'environnement des affaires pour les PME. Et donc, je profite pour lancer un appel à toutes les PME de Côte d'Ivoire et leur dire que le gouvernement travaille à ce que notre pays soit un pays qui soit ouvert sur le monde. Et nous souhaitons que nos PME puissent offrir des produits de qualité qui respectent les normes nationales et internationales, parce que c'est cela qui va leur permettre de pouvoir conquérir d'autres marchés africains au niveau de la CEDEAO et dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. La ZLECAF est une réalité irréversible qui se mettra en place. Et il est important que nos PME puissent chaque fois en rajouter à leur compétitivité. Donc nous comptons en fait sur leur ingéniosité, sur leur agilité, sur leur résilience, sur leur esprit de combativité pour continuer de gagner des parts de marché aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région partout en Afrique, avec pour finalité de créer de la richesse et de créer notamment des emplois.
C'était Souleymane Diarra Souba, le ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie. On s'intéresse à présent à la question du foncier urbain dans ce journal. Un projet de délimitation des territoires villageois situés en zone urbaine qui vient d'être lancé à Abidjan s'étendra à toutes les régions du pays. Cette opération vise à prévenir durablement les conflits et régler les chevauchements de droits. L'information a été portée le week-end dernier à Boaké par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à l'occasion du lancement de la caravane sur l'ADU, l'attestation de droit d'usage coutumier. Le ministre Bruno Nabaye connaît dans des propos recueillis par Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Bekè.
Nous installerons bientôt ici à Boaké une antenne du système intégré de gestion du foncier urbain. Ce déploiement permettra de traiter les actes fonciers de manière plus rapide, plus fiable, plus sécurisée au bénéfice des populations, des collectivités et des investisseurs. Nous avons également lancé un vaste programme de délimitation des territoires villageois situés en milieu urbain. Cette opération amorcée à Abidjan vise à clarifier les limites entre les villages, à définir avec précision les frontières entre les terroirs coutumiers et à prévenir durablement les conflits liés au chevauchement de droits. Cette initiative sera généralisée à l'ensemble des villages urbains du pays et bien entendu, Boaké également sera concerné par cette opération. Et nous commençons à voir quelques problèmes de ce type à la périphérie de la ville de Boaké.
Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabaye Kone, à l'instant sur Radio de la Paix. Ouverte hier mardi, les consultations nationales sur l'intégrité de l'information en Afrique de l'Ouest s'achèvent ce mercredi dans la commune de Cocody. Un événement co-organisé par la coopération allemande GIZ et le ministère de la Communication. Il s'agit de préparer, grâce à des résolutions fortes, la grande conférence régionale sur l'intégrité de l'information prévue du 3 au 5 septembre prochain au Cap-Vert. Ismaël Ango a suivi l'ouverture des travaux. Voici son compte-rendu.
L'intégrité de l'information, le terrain n'est pas facile.
À l'hôtel Les Terrasses de Baudemain, des experts et partenaires sont réunis pour le projet Renforcer la fiabilité de l'information en Afrique de l'Ouest. Pour la directrice de ce projet, Katharina Lopek, l'enjeu est de lutter contre la désinformation qui inonde l'espace ouest-africain.
On a tellement d'informations qui circulent aujourd'hui sur des réseaux sociaux, dans des médias, que parfois ça peut être difficile d'appuyer en fait déjà des acteurs sur place et de retrouver en fait une information qui est fiable, qui est intègre. Le deuxième aspect, c'est de limiter la distribution des contenus nuisibles.
L'Union européenne est un partenaire clé de cette initiative. Martina Borovac, chef de section politique, met l'accent sur un point essentiel, enseigner aux communautés les clés pour accéder à une information fiable.
L'objectif va être d'adopter un plan d'action qui va permettre une meilleure sensibilisation aussi de la population, mais surtout les jeunes et les femmes. L'enjeu aujourd'hui, c'est de leur montrer comment vérifier les informations et les reconnaître dans cette multitude d'informations dans l'espace médiatique qui est très saturé.
La Côte d'Ivoire, avec le Nigeria, le Sénégal et le Mali, est au cœur de ces consultations. Objectif, élaborer des recommandations nationales pour un plan d'action régional. Ce plan sera finalisé à Praia, au Cap-Vert, du 3 au 5 septembre 2025, lors de la conférence régionale sur l'intégrité de l'information.
Actualité hors de nos frontières, l'Égypte, la Libye, la Centrafrique et l'Éthiopie accueillent près de la moitié des 4 millions de civils qui ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en 2023. Mais face aux arrivées continues de réfugiés et au budget de plus en plus contraint, le programme alimentaire mondial PAM n'arrive plus à suivre. Faute d'argent, et l'ONU prévient en effet qu'elle va devoir cesser ses opérations humanitaires dans ces pays voisins du Soudan que nous avons cité un peu plus haut, nous apprend l'AFP. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a gracié 16 prisonniers, ont annoncé ce mercredi ses services plus d'une semaine après la libération surprise de plusieurs personnes, dont l'opposant Sergueï Tikhanovski, indique le communiqué de la présidence cité par l'AFP. Parmi les personnes graciées qui se sont toutes répandues, figurent 8 femmes et 8 hommes, selon la même source. On enchaîne avec le sport football. La finale de la Ligue féminine française professionnelle pourrait se jouer le 14 mars 2026 au stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'annonce a été faite lundi par Jean-Michel Aulas, président de la Ligue féminine française professionnelle de football. Cette finale, organisée pour la première fois hors de la France, opposera la championne de France et l'équipe vainqueur de la Coupe de France féminine. Un événement qui vise à valoriser l'excellence du football féminin tout en mettant en lumière la qualité des infrastructures sportive de la Côte d'Ivoire, hôte de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Face aux médias, Jean-Michel Aulas a expliqué les motivations ayant conduit au choix de la Côte d'Ivoire comme pays hôte.
La France a envie de positionner le football féminin au plus haut niveau par l'organisation d'une compétition, la Coupe de la Ligue, dont la finale pourrait être ici à Abidjan pour l'année 2026. La compétition va se dérouler tout au long de la saison et la finale serait, sous réserve que tous les détails que M. le Premier ministre a bien mis en perspective soient réglés, se dérouler pour la première fois dans l'histoire du football féminin dans un grand pays de football et pour montrer que le football féminin est en plein développement, en pleine croissance.
À l'instant, Jean-Michel Aulas, président de la Ligue féminine française professionnelle de football. Il est maintenant temps pour nous de retrouver l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, c'est le professeur Bamba Abdoulaye, professeur d'histoire à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, qui revient sur l'accord de paix signé récemment entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Il parle également des enjeux de cet accord pour les différents acteurs concernés, mais aussi pour la diplomatie africaine. Sur le sujet, professeur Bamba Abdoulaye répond aux questions de Mardoché Kouassi.
Professeur Bamba Abdoulaye, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé le 27 juin dernier, sous les auspices des États-Unis, un accord de paix visant à mettre fin à une trentaine d'années de conflits dans l'est de la RDC. Alors, que vous inspire un tel accord?
Merci beaucoup. Je dirais que qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire quand il s'agit de paix. Plusieurs tentatives de rencontres et de signatures d'accords entre les deux parties ont échoué. Celle qui vient d'avoir lieu aux États-Unis marque un arrêt, un tournant que j'espère décisif dans le retour de la paix en RDC, dans un premier temps. Et ensuite également dans le retour de l'entente entre la RDC et le Rwanda. Vous vous souvenez déjà que le 15 décembre 2024, une tentative avait eu lieu, le président congolais ne s'est pas rendu, et donc les deux ministres des Affaires étrangères sont retrouvés aux États-Unis, l'accord a été signé. C'est un signe d'espoir, mais il va falloir que sur le terrain, cela soit matérialisé de part et d'autre.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, après plusieurs tentatives infructueuses, notamment du côté de la diplomatie africaine, les États-Unis réussissent une telle prouesse, on pourrait le dire. Est-ce le signe d'une inefficacité de la diplomatie africaine face à ce conflit?
Oui, il ne faut pas avoir peur de mots. Il faut aussi rappeler que l'initiative américaine est entreprise à la demande de la RDC. Et donc, ce qui montre déjà, dans un premier temps, le nouvel état d'esprit de la RDC. Les États-Unis, avec ce qu'ils représentent comme première puissance économique, première puissance militaire, ont des moyens de coercition sur les belligérants, des moyens de pression économique et diplomatique sur les belligérants, notamment sur le Rwanda. Et donc, à ce niveau, les États-Unis ont su donc appuyer un peu sur le bouton, contrairement à l'Union africaine qui est tergiverse, qui n'a pratiquement aucun moyen de coercition sur le Rwanda.
Alors, les États-Unis, jusque-là, très discrets, on va dire relativement discrets dans cette zone du continent, sont en passe d'être les faiseurs de paix dans cette région. Alors, que vous inspire cette médiation, le fait que les États-Unis aient accepté aussi promptement d'intervenir ou d'être le médiateur? Est-ce que cela ne cache pas quelque chose?
Rassurez-vous, c'est pas de la philanthropie. Donald Trump est un homme d'affaires. Vous vous souvenez qu'à sa prise de pouvoir, il a toujours clamé « American first », c'est-à-dire les États-Unis d'abord. Il mettra les pieds là où les intérêts américains sont. Et donc, les informations qu'on a, c'est que cet accord a été conditionné par des intérêts qui avaient été garantis aux États-Unis, notamment certaines richesses de la RDC, le lithium, le cobalt, l'or. Et donc, sur cette base-là, les Américains se sont dit qu'ils ont beaucoup à gagner au niveau du sous-sol congolais. Et donc, c'est tout ça qui milite en faveur de leur implication au plus haut niveau dans la résolution de ce conflit. Mais je rappelle que parallèlement à ce qui s'est passé aux États-Unis, à Doha également, il y a aussi eu des rencontres, c'est vrai, qui n'ont pas encore produit de résultats probants comme aux États-Unis, entre le gouvernement congolais et la rébellion. Mais il faut aussi que là-bas, il y ait une entente pour que sur le terrain, même si on sait que c'est le Rwanda qui soutient le M23, il y ait vraiment une accalmie et un retour définitif à la paix.
Alors, professeur, un accord déjà signé aux États-Unis, des négociations en cours au Qatar, mais pourquoi finalement ces négociations au Qatar, puisqu'il y a déjà un accord de paix?
L'accord de paix aux États-Unis, c'est entre le gouvernement, l'État rwandais, et l'État de la RDC. Les négociations à Doha, c'est entre l'État de la RDC et la rébellion du M23. Et le M23 qui est sur le terrain, qui combat, qui aujourd'hui a le contrôle, c'est une grande ville dans Goma. Et on sait que le M23 a toujours été soutenu par le Rwanda. Donc le Rwanda, en signant cet accord, s'engage à respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Mais il faut que sur le terrain maintenant, la rébellion dépose les armes et s'engage inexorablement dans un processus de paix pour le pays. Donc voilà un peu la clarification au niveau des deux processus. Mais les deux processus ne sont pas contradictoires parce qu'ils convergent vers le retour de la paix et la stabilité en RDC.
Alors, professeur, pensez-vous que cet accord est le bon et qu'il va vraiment permettre de mettre définitivement fin à cette crise?
Je ne le pense pas, je l'espère, parce que la population à l'est du Congo souffre énormément. Il y a plusieurs décennies qu'il y a des va-et-vient, des accords de paix qui ne sont pas respectés, il y a toutes les hostilités. On ne peut plus faire de point et dénommer le nombre de morts, tous les dégâts matériels qu'il y a eu. Cette partie du Congo et la RDC de France générale a besoin de paix, a besoin de stabilité, a besoin d'accalmie. Donc, au-delà de penser, j'espère que les différentes parties vont jouer sans jeu et vont respecter donc les clauses de ces accords. Et surtout qu'il faut maintenant chercher à trouver un accord avec le MDC. Et je pense qu'à partir de là, on pourrait vraiment penser à un retour définitif de la paix en RDC.
Professeur Bamba Abdoulaye, merci beaucoup.
Merci à vous et à très bientôt.
Bamba Abdoulaye, professeur d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, était interrogé par Mardoché Kouassi dans le cadre de l'invité de la rédaction. C'est ce qui met fin à ce journal de 12 heures. Tout de suite, le rappel de l'essentiel. Présidentielle 2025, quelle contribution des femmes pour un processus électoral inclusif, cohésif et sécurisé est le thème de réflexion d'une table ronde qui s'est tenue à l'Assemblée nationale hier mardi à l'initiative de l'ONG Femmes Ivoiriennes en politique. État civil, le taux d'enregistrement des naissances dans les délais est en nette régression. De 66,8% en 2021, il a chuté à 55,4% en 2024. C'est donc la fin de cette édition de la mi-journée de ce mercredi. Dans quelques instants, la revue de presse de Francis Cassi. Je vous retrouve à 15h pour un flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit et surtout bon après-midi à toutes et à tous à l'écoute de Radio de la Paix.
Bonjour à tous. Allez vite!